épidémique de mélange à tout sel. Donc ce projet implique plusieurs laboratoires du GIS, mais c'est égal, donc c'est une émanation directe du work package qui travaillait sur les impacts en AMA, et donc il inclut également des partenaires extérieurs au GIS qui sont les laboratoires qui travaillent dans ce work package. Et donc tout ce travail est mené de façon cohérente avec le programme de travail défini dans AMA, donc avec le CRC de Dijon, le LOA, et puis des collaborateurs africains, et puis une contribution assez inestimable du MIGEVEC avec Hélène Boutin, qui est donc notre épidémiologiste de référence dans ce projet. Donc je vais commencer par une introduction assez rapide sur les aérosols désertiques dans la zone sahélienne, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce sujet. Donc en fait, depuis qu'on dispose d'images satellites, notamment visibles, on a pu constater des transports extrêmement importants d'aérosols désertiques depuis l'Afrique du Nord sur l'Atlantique Nord tropical, donc des images extrêmement spectaculaires. Et si on passe à des produits satellites plus quantitatifs, donc ici les épaisseurs optiques dérivées de l'instrument MODIS, on voit donc que c'est au large de l'Afrique de l'Ouest qu'on a les contenus atmosphériques en aérosol parmi les plus forts qu'on puisse observer dans le monde. On remarque aussi sur cette image qu'au niveau du Sahara, on a une zone qui est blanche. Donc l'inversion des épaisseurs optiques sur le continent est quelque chose qui reste toujours très difficile sur les surfaces brillantes des zones désertiques. Et donc sur le nord de l'Afrique, on a plutôt recours pour documenter les aérosols désertiques à des produits qui ne sont que semi-quantitatifs, et en particulier à des indices d'aérosols. Donc ce qui est illustré ici, c'est l'indice d'aérosol dérivé de l'instrument OMI, donc Ozone Mapping Instrument, donc une mesure dans l'UV qui est affectée par la présence d'aérosols absorbant dans l'UV. Et donc on voit ici que la zone sahélienne se trouve exposée à des contenus en aérosol extrêmement importants, et ici encore parmi les plus forts qu'on puisse mesurer dans le monde. Donc comme je vous disais, sur le continent, à part ces indicateurs qui sont semi-quantitatifs, on a peu d'informations réellement quantitatives. Donc dans les années 90, l'essentiel des contenus en aérosol sur le continent ont été documentés à partir de mesures de visibilité horizontale, qui ont l'avantage d'être disponibles sur des périodes historiques, mais qui là aussi présentent un certain nombre de biais, en particulier liés à la répartition des stations qui n'offrent pas une couverture homogène et cohérente sur l'Afrique de l'Ouest. Dans les années 90, on a pu disposer d'une information beaucoup plus quantitative par la mise en place de mesures d'épaisseur optique en aérosol dans le cadre du réseau de mesures de photométrique Aéronet, et donc qui donne accès cette fois-ci au contenu en aérosol intégré sur la verticale. Donc ce sont des mesures qui sont disponibles pour certaines stations sahéliennes depuis les années 90 et qui ont permis par exemple de documenter de façon quantitative assez précise le cycle saisonnier de ces aérosols, donc ici sur la station de Banizongo au Niger. Donc, pour vous donner un exemple du type d'événement que l'on peut documenter avec cette instrumentation, donc ce qui est représenté ici, ce sont les photomètres qui avaient été déployés dans le cadre de la campagne de mesure à long terme d'AMA, et le cas d'un événement de transport particulièrement spectaculaire en mars 2006. Donc, dans un premier temps, au début du mois de mars, on a observé sur les stations les plus au nord des épaisseurs optiques extrêmement fortes, hein, qu'on arrive à mesurer extrêmement rarement, qui vont donc jusqu'à des valeurs qui montent jusqu'à 4 sur ces 3 stations. Et au fur et à mesure que on peut difficilement appeler ça un panache, hein, parce que ça s'est réparti sur toute l'Afrique de l'Ouest et le golfe de Guinée, des épaisseurs optiques qui sont également extrêmement fortes, aussi bien sur les stations du sud que sur les stations de l'Ouest, avec des épaisseurs optiques qui restent supérieures à 1 pendant plus d'une semaine, donc une tempête d'échelle continentale. Au niveau des informations quantitatives disponibles, dans le cadre du programme AMA, on a également mis en place un dispositif de mesure des concentrations de surface, donc qui est composé de 3 stations, au Sénégal, au Mali et au Niger, qui s'appelle le Sahelian Dust Transect. Et donc ce transect a permis de disposer pour la première fois de mesures de concentration en aérosol en surface, et en particulier le choix qui a été fait, c'était de mesurer ce qu'on appelle la composante PM10, donc la concentration en particulier inférieure à 10 microns, qui est en fait un standard pour l'évaluation de la qualité de l'air dans les pays développés. Donc on voit un cycle saisonnier très marqué de ces concentrations. Et si on se réfère aux normes européennes, par exemple, les concentrations journalières pour répondre aux normes de qualité de l'air ne doivent pas dépasser 40 microgrammes par mètre cube. Donc on voit sur cette station que c'est un seuil qui est très très souvent dépassé. L'impact de ces aérosols sur la qualité de l'air a été estimé en calculant des indices de qualité de l'air suivant une méthode proposée par l'Agence américaine de qualité de l'air en fonction des concentrations mesurées, donc ici sur les trois stations du français. Et donc on voit qu'à ces niveaux de concentration en PM, on a un niveau de qualité de l'air satisfaisant moins de 25% du temps et plus de la moitié du temps une qualité de l'air tout à fait médiocre, voire même supposée relativement grave au niveau sanitaire. Donc il s'agit là d'un effet un peu général sur les concentrations, mais effectivement, dans ce programme, on s'est intéressé à une pathologie tout à fait particulière qui est le problème de la méningite. Donc la méningite dans la zone sahélienne est un vrai problème de santé publique. Donc on voit sur cette figure qui montre la distribution spatiale des épidémies que ces épidémies sont concentrées dans la zone sahélienne, dans ce qui a été donc qualifié de ceinture de la méningite. Elles se produisent pendant la saison sèche, c'est-à-dire entre février et avril. Elles impliquent différents types de sérogroupes, donc jusqu'à récemment essentiellement les groupes A et C, mais depuis quelques années on a également des épidémies très fortes sur les sérotypes X et W135, donc de la bactérie de la méningite. Ça reste aujourd'hui encore un problème de santé publique important, parce que chaque année 25 000 à 250 000 cas sont recensés dans cette région. La maladie touche essentiellement les enfants de moins de 15 ans. Le taux de mortalité est relativement élevé, puisqu'il est d'à peu près 10%, mais on note également chez les survivants des séquelles neurologiques importantes pour 10 à 20% de ces survivants. Donc c'est vraiment un problème réellement préoccupant dans la zone sahélienne. Donc les facteurs de risque associés à cette pathologie sont très nombreux. Ils sont, ceux qui ont été identifiés sont aussi bien sociaux qu'environnementaux. Donc au niveau des facteurs sociaux, donc c'est une maladie qui se transmet, donc on a un certain nombre de facteurs tels que le nombre de personnes par habitation qui donc par proximité vont pouvoir se transmettre cette pathologie, un facteur aggravant lié à l'exposition aux fumées dans les foyers, le niveau d'immunité des populations, également le niveau d'éducation, et puis on a également noté un effet lié à la dynamique de population avec le fait que certaines régions où les épidémies commencent à se déclarer, si effectivement les populations se déplacent, alors le virus, les épidémies peuvent être peuvent se répartir, enfin avoir une distribution spatiale différente en fonction de la dynamique des populations. Donc en parallèle, un certain nombre de facteurs environnementaux et climatiques ont également été mis en évidence, donc des différences en fonction du type de couvert végétal, et puis de conditions climatiques telles que l'humidité de l'air, en l'occurrence plutôt la sécheresse de l'air, l'association de ces épidémies avec des situations de vent d'harmattan, et également a été mise en cause la présence des aérosols désertiques pendant la saison des épidémies. Donc quel serait le rôle de ces aérosols désertiques? Ce serait un effet d'irritation de la muqueuse qui favoriserait le développement du méningocoque et donc favoriserait le développement des épidémies. Donc les questions auxquelles on essaye de répondre dans le cadre de ce projet étaient de savoir est-ce qu'il y a un lien entre la présence de ces aérosols désertiques, les conditions climatiques et les épidémies de méningite dans la zone sahélienne. Et ce qu'on aimerait pouvoir évaluer à terme, c'est est-ce que les modèles physiques actuels de prévision d'aérosols ou alors les observations satellites peuvent être une aide pour améliorer la gestion de ces épidémies. Alors comment aborder cette question? Donc nous avons utilisé essentiellement des approches statistiques, donc allant de simples relations linéaires et de calculs de corrélation à également de l'analyse par ondelette pour travailler sur des échelles de temps plus longues et puis une analyse plus fine par type de temps. Donc tout le problème pour mener ce projet au démarrage a été de savoir quelles étaient les données disponibles et lesquelles pouvaient être pertinentes pour mener ce projet. Donc au niveau des données épidémiologiques, donc idéalement on aurait souhaité pouvoir accéder à un nombre de cas de méningite réellement avérés sur la zone sahélienne avec si possible une fine résolution spatiale et des informations complémentaires sur les sérotypes, la vaccination, pour pouvoir éventuellement écarter ces effets-là et ne retenir que les effets du climat et puis des aérosols. Donc pratiquement, c'est évidemment pas ce auquel on a accès. Donc en pratique, ce qui est renseigné, c'est le nombre de cas de méningite par district et à la semaine. Donc c'est des données qui sont recensées à l'OMS. Donc le problème avec ces données, c'est que le rendu est relativement hétérogène. Les données elles-mêmes ne sont pas toujours homogènes, et en particulier on peut avoir des doutes sur le fait que les cas soient totalement avérés. Et donc ce sont les données qui sont actuellement disponibles. Donc nous avons eu la chance, grâce à la collaboration qui a été mise en place avec Hélène Broutin et Liliane Agier, donc d'accéder à une base de données, donc qui est un recensement des données de surveillance de l'OMS par district, pour les trois pays qu'on a choisi de cibler dans cette étude, qui sont les plus touchés, donc le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc ces données ont été homogénéisées sur la période de 1998 à 2009, et à centraliser à la fois le nombre de cas, mais également réaliser un calcul d'incidence, c'est-à-dire de ramener le nombre de cas à la population sur chacun de ces districts. Donc au niveau des aérosols, donc les données dont on dispose, donc idéalement, si on veut faire une étude épidémiologique, on aurait besoin d'accéder au taux d'exposition des personnes de 1998 à 2009. Donc pratiquement, ceux dont on dispose, les mesures les plus proches de ces taux d'exposition sont donc des mesures de concentration de surface. Donc je vous l'ai dit, elles sont disponibles sur trois stations en Afrique, mais seulement depuis 2006. On dispose également de mesures du contenu intégré verticalement, donc l'épaisseur optique grâce au réseau Aéronet. Il y a environ 10 stations qui fonctionnent en Afrique depuis à peu près 10 ans. Et des indicateurs satellites de présence d'aérosol, donc dans l'UV, il en existe également dans l'infrarouge. Ces capteurs permettent d'accéder à une couverture régionale sur toute la région et puis à une échelle spatiale assez importante, puisqu'il y a eu des capteurs successifs qui sont succédés depuis les années 70 à 80. Donc clairement, ce sont les indices satellites qui offrent la meilleure couverture spatiale et temporelle pour faire cette analyse conjointe des liens entre aérosol, climat et méningite. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont des bons indicateurs des niveaux d'exposition des personnes. Donc on a découpé cette question en deux sous-questions. Donc la première, donc comme je vous dis, ce sont des indicateurs qui ne sont pas totalement physiques et quantitatifs. Donc le premier niveau de question est de savoir est-ce qu'ils reproduisent correctement les contenus en aérosol intégrés verticalement. Et dans un deuxième temps, se poser la question de savoir est-ce que ces contenus intégrés verticalement donnent une bonne image de ce qui est mesuré simplement à la surface. Donc une première approche a été menée qui a consisté à comparer directement les indices aérosols dérivés du capteur OMI dans l'UV aux épaisseurs optiques en aérosol mesurées sur les instruments du réseau Aéronet. Donc ici c'est une comparaison qui a été faite entre des données journalières sur la période 2005-2009. Donc on a en Y les indices aérosols, en X les épaisseurs optiques sur quatre stations d'Afrique de l'Ouest où ces données sont disponibles. Et donc on voit qu'on a une bonne corrélation entre ces indices aérosols et les épaisseurs optiques à l'échelle journalière, avec des coefficients de corrélation compris entre 0,6 et 0,7. Donc cette analyse a ensuite été menée à l'échelle hebdomadaire, puisque c'est la résolution avec laquelle les données épidémiologiques sont disponibles. Donc on voit une amélioration de la relation entre les indices UV et les épaisseurs optiques par ce moyennage, une augmentation des coefficients de corrélation. Par contre, si on fait cette comparaison avec les concentrations mesurées en surface, on a des corrélations qui sont moins bonnes, mais qui restent significatives, et des tendances qui laissent à penser que ces indices aérosols sont suffisamment raisonnablement corrélés aux concentrations de surface pour être utilisés comme indicateur de ces concentrations. Donc dans un premier temps, ces indices aérosols ont donc été utilisés pour regarder si on avait une corrélation entre les contenus en aérosol et le nombre de cas de méningite par pays. Donc c'est un résultat d'un article qui a été soumis très récemment. Donc ce qui est représenté sur la figure, ce sont donc les cycles saisonniers moyens des nombres de cas recensés de méningite et des indices d'aérosols sur les trois pays ciblés. Donc les valeurs ici ont été centrées et normées. Donc on voit une similitude assez importante dans les cycles saisonniers des poussières et des méningites. Et donc à partir de ces séries, ce qui a été calculé, c'est le niveau de corrélation entre les indices aérosols et les méningites, en considérant donc deux périodes, la période concernant au démarrage au pic de l'épidémie, la période couvrant la totalité de l'épidémie, et ensuite en calculant ce degré de corrélation en décalant les deux séries temporelles d'impactants variant de 0 jusqu'à 4 semaines. Et donc on note que la corrélation est maximale entre ces deux séries lorsqu'on considère un décalage de 2 semaines, donc entre l'apparition des aérosols désertiques et l'apparition des épidémies de méningite. Donc cette corrélation et ce décalage sont cohérents avec le rôle supposé de pré-irritation des aérosols désertiques. Donc la question qui s'est posée ensuite, c'est de savoir comment on peut étendre cette analyse à l'échelle annuelle et pluriannuelle. Donc pour pouvoir étendre cette analyse, il faut disposer d'une série temporelle suffisamment longue. Donc le problème avec la série temporelle des indices d'aérosol, qui sont reportés ici, c'est que quand on compare l'évolution saisonnière de ces indices d'aérosol avec les épaisseurs optiques et les concentrations de surface, donc les concentrations sont en rouge, les indices aérosol ici en bleu, et c'est l'épaisseur optique mesurée au sol qui est en pointillé. Donc on voit qu'on a des tendances saisonnières qui sont assez proches, mais on a des maximums qui sont déphasés. On a généralement un maximum de concentration en tout début de la saison sèche, alors que le maximum sur les indices aérosols se produit de façon décalée dans le temps. Donc on le voit quand on regarde les rapports entre ces indices d'aérosols et les concentrations mesurées au sol entre 2005 et 2006 pour les deux stations à l'échelle hebdomadaire. Donc on a une variation saisonnière du rapport entre les concentrations et les indices aérosols. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé le rapport moyen saisonnier entre l'AI et les concentrations, donc ce qui est représenté ici par le signal BC, pour avoir un moyen de corriger ce biais de l'indice aérosol. Donc pour produire cette série temporelle équivalente aux concentrations, il a également fallu raccorder les séries des différents capteurs dans l'UV, donc le capteur TOMS et le capteur OMI, dont on voit que sur le capteur TOMS, on voit qu'on a une valeur moyenne et une amplitude du signal qui est plus importante que sur le capteur OMI, et on a également un biais qui a été mis en évidence par l'équipe responsable de l'instrument suite à un petit accident qui est arrivé au capteur. Donc en fait, ce qui a été fait, c'est de corriger ce biais instrumental et de raccorder l'ensemble de ces trois séries en les recalant sur la valeur moyenne et l'amplitude valeurs produites par l'instrument OMI. Donc ensuite, le biais saisonnier est corrigé en fonction des concentrations et donc on arrive ici à produire une série temporelle de proxy de concentration de surface qui peut être utilisé pour faire une analyse à long terme. Donc cette analyse a été menée en collaboration donc avec une étudiante de l'université de Lancaster qui a réalisé une analyse par ondelette, donc qui vise à étudier la cohérence et les différences de phase entre les épidémies de méningite, les aérosols et différentes variables climatiques. Donc cette étude a été faite à l'échelle du district et au Niger. Donc je vous montre ici simplement une planche qui illustre les résultats pour l'étude des relations entre la méningite et l'humidité. Donc je ne vais pas détailler toutes ces figures. Donc les séries temporelles sont représentées ici, donc en rouge l'humidité, en noir les méningites. Et le principal résultat que l'on examine, ce sont donc les différences de phase entre ici l'humidité en rouge et puis les nombres de cas de méningite. Donc pour résumer les résultats obtenus par cette analyse, donc ce que j'ai représenté ici, c'est les différences de phase avec les méningites pour différents paramètres. Donc les séries reconstruites de concentration d'aérosol, la direction du vent, l'humidité, la température. Donc ce qu'on voit principalement, c'est qu'on a un déphasage entre les épidémies de méningite et puis les paramètres climatiques, donc humidité, température et direction de vent. Et par contre, on retrouve ce décalage de environ 2 semaines entre la présence d'aérosols et les épidémies de méningite. Donc ici encore, cette analyse montre que la dynamique annuelle des épidémies est effectivement corrélée avec celle des aérosols, avec un déphasage de l'ordre de 1 à 2 semaines, et que par contre, ces cycles sont en opposition, enfin, quasi en opposition de phase avec les autres variables climatiques. Donc ce travail étant été fait à l'échelle du district. Donc on voit aussi quand même que le résultat de cette analyse est quand même très impacté par le fait qu'on a un signal saisonnier extrêmement fort des variables climatiques. donc qui a tendance un petit peu à empêcher de voir quelle relation il peut y avoir en saison sèche. Donc en parallèle avec ce travail, un travail plus spécifique a été mené uniquement sur la saison sèche et qui a consisté à essayer d'identifier les différents types de temps qu'on retrouve en saison sèche et à voir s'il y avait une relation différente entre les aérosols et les épaisseurs optiques pendant cette saison-là. Donc ce travail a été fait sur chacune des stations en renseignant les données météorologiques à partir de données fournies par le Centre européen sur 16 pixels autour de chaque station de mesure. Donc ces données sont analysées en utilisant une méthode de carte topologique. Donc il s'agit d'une méthode statistique de regroupement qui rassemble les données en fonction de leur similitude. Donc les données qui sont traitées, ce sont donc les profils de vent, zonaux et méridiens et la température. Donc ici, c'est un exemple qui vous montre le résultat de cette classification sur les températures de surface. On voit effectivement une organisation assez cohérente des types de temps identifiés. Et donc pour simplifier ensuite le signal, les résultats sont ensuite reclassifiés par une méthode de classification ascendante hiérarchique pour regrouper la première classification en catégories moins nombreuses qui constituent donc les types de temps. Donc les types de temps identifiés en saison sèche ici sur les stations du Niger et du Mali, donc on a donc 5 types de temps qui se différencient essentiellement par le fait qu'on a deux types de temps correspondant plutôt à des flux de secteur sud, donc pas forcément appelé mousson à cette saison, et puis des types de temps tout à fait typiques de situations d'harmattan avec des différences essentiellement liées aux vitesses de vent associées à ces types de temps. Donc une autre représentation de ces types de temps est donnée ici avec les cartes des vents de surface et des températures à 2 mètres ici pour les deux types de temps associés à des flux de sud et ici deux classes correspondant aux flux de nord-nord-est, donc des situations typiques d'harmattan avec des vents relativement forts qui sont associés à des concentrations en poussière relativement élevées. Donc on a regardé comment se succédaient ces types de temps sur la saison sèche. Donc ici vous avez la contribution des différents types de temps opérés par les couleurs depuis 2006 jusqu'à 2010. Donc on voit que les types de temps correspondant au secteur sud se retrouvent essentiellement en début et en fin de saison sèche. Donc ils correspondent à la fois au retrait et à l'arrivée du flux de mousson. Alors que les types de temps repérés ici 3, 4, 5 sont ceux qui sont les types de temps dominants pendant la saison sèche. On note également une certaine variabilité interannuelle de l'occurrence de ces types de temps, avec ici par exemple on a repéré une anomalie assez intéressante où on a une occurrence assez précoce du type de temps de sud qui en fait est associée à des concentrations exceptionnellement basses pour un mois de mars. Donc en fait, on a une variabilité, un schéma intra-annuel assez clair, mais une certaine variabilité interannuelle des occurrences de ces types de temps. Donc si on regarde maintenant les relations entre les concentrations et les épaisseurs optiques correspondant à ces types de temps, donc ici c'est une comparaison qui est faite au pas horaire. Vous avez ici l'ensemble des données utilisées dans cette phase d'étude, et on voit effectivement que pour les deux secteurs correspondant à des flux de sud, on a des relations qui sont relativement basses, on va dire, et que par contre, pour les types de temps correspondant aux situations plus de flux d'harmattan, on a de très bonnes corrélations entre la concentration de surface et l'épaisseur optique en surface. Ce qui est important de voir, c'est que ce qu'on a surtout en fonction des types de temps, ce sont des différences de pente entre la concentration en PM et l'épaisseur optique, qui traduisent l'influence de l'altitude du transport. Donc c'est important parce qu'on voit que selon la situation, pour une valeur d'épaisseur optique donnée, donc ici par exemple 2, on va avoir des concentrations en surface tout à fait différentes. Donc ici sur les types de temps correspondant au secteur sud, une épaisseur optique de 2 va amener à des concentrations de surface de l'ordre de 4 à 500 microgrammes par mètre cube, alors qu'une épaisseur optique de 2 au plein cœur de la saison sèche correspond à des concentrations plus de 2 fois supérieures. Et on voit également qu'on a un des types de temps de saison sèche qui, lui, amène à des concentrations 2 fois plus faibles pour la même épaisseur optique. Donc on n'a pas avec l'épaisseur optique un indicateur totalement non ambigu des concentrations de surface. Donc l'autre chose, la dernière chose que l'on peut faire avec cette approche statistique, eh bien, c'est d'inverser les concentrations de surface à partir des épaisseurs optiques mesurées. Donc c'est ce qui a été fait ici. Et donc on voit ici un taux d'inversion de l'ensemble des situations avec un niveau de corrélation tout à fait satisfaisant et essentiellement lié à la bonne inversion des concentrations dans ces situations normatives. Donc les principaux résultats que nous avons obtenus jusqu'à aujourd'hui donc, montrent qu'il existe bien une corrélation entre les aérosols désertiques et les épidémies de méningite, que cette corrélation est assez évidente dans la période entre le démarrage et le pic de l'épidémie, et elle est tout à fait cohérente avec l'hypothèse qui est dominante actuellement sur le fait que ces aérosols auraient un rôle d'irritation préalable des muqueuses qui favorise la mise en place et le développement de ces épidémies. On a également pu quantifier le délai moyen entre le maximum des concentrations de poussière et le pic de ces épidémies, qui est estimé à peu près 2 semaines. Et on voit également qu'on a la possibilité d'inverser les concentrations de surface de façon fiable à partir des épaisseurs optiques en utilisant une classification par type de temps. Donc les développements qui sont actuellement en cours, puisque le projet n'est pas tout à fait terminé, consistent à développer une analyse multivariée à l'échelle du district pour évaluer le rôle relatif des aérosols par rapport aux autres facteurs climatiques, mais uniquement à l'échelle de la saison sèche. Et puis d'étudier dans cette perspective aussi de pouvoir peser le poids des aérosols et des autres variables climatiques, étudier les relations entre les types de temps et les méningites sur la période de temps où effectivement on les a identifiés. Un dernier point à traiter consiste à évaluer la capacité d'un modèle d'aérosol à prévoir correctement les concentrations de surface et en particulier leur évolution pendant la saison sèche. On voit en particulier au vu des résultats qu'on a obtenus jusqu'à maintenant qu'il est important de vraiment évaluer si le modèle est capable de reproduire au bon moment les maximums de concentration et également leur répartition verticale. Donc de façon plus prospective, au vu de ces résultats, on voit que ce serait intéressant de réaliser une inversion des concentrations de surface à partir des indices satellites, mais en fonction des types de temps sur toute la période pour lesquelles on a des données épidémiologiques sur les méningites. Cela permettrait de préciser les relations entre les aérosols, le climat et la méningite, mais en intégrant de façon plus appropriée des variations interannuelles à long terme des concentrations de surface. On aurait également aimé pouvoir travailler sur une période plus longue, en particulier sur une période historique, en s'intéressant à des données qui seraient obtenues avant la période de sécheresse des années 80, et surtout une période où la vaccination ne serait pas aussi répandue et aussi efficace, même si c'est un peu dur de le dire comme ça, pour vraiment voir si dans cette situation-là, on retrouve un signal fort de l'impact des aérosols sur la méningite. Et pour finir, une des perspectives également qui se dessine, c'est la possibilité donc, d'intégrer des prévisions d'aérosols désertiques dans des systèmes de prévision de risque des épidémies de méningite pour faciliter la gestion de ces épidémies. Merci.
Merci. Des questions, moi j'en aurais, mais je passerai.
Une question et un commentaire. La première question, j'ai noté au début de l'exposé que tu as mentionné les fumées comme un facteur important.
Oui.
À la fois sur le produit OMI, il mesure à la fois les poussières et l'aérosol émis par les feux. Est-ce que quiconque a essayé d'analyser cet aérosol des feux, si c'est un effet aggravant sur la méningite?
Donc, je réponds en deux temps. Donc non, personne n'a regardé. Première réponse. Après, il ne s'agit pas de... Dans ce contexte particulier, il s'agit plutôt d'avoir des feux domestiques à l'intérieur des habitations plutôt que d'avoir des concentrations extérieures importantes en aérosols carbonés. On voit que les pays les plus atteints ne sont pas ceux où il y a le plus d'aérosols de feux de biomasse.
D'accord. Néanmoins, je pourrais nettoyer le système. Le signal OMI des aérosols de feu.
Alors, nettoyer le signal OMI des aérosols de feu, ça voudrait dire qu'il faudrait en une autre. Vous voudriez plutôt, dans ce cas-là, utiliser des données MODIS avec des coefficients Mach-Planck. Et sur cette région, je ne suis pas sûre que ça soit d'une fiabilité à toute épreuve.
La remarque avait un dernier commentaire sur les modèles de prévision. Il y a un important travail de prévision qui est fait dans SDS Plus. Je ne sais pas si tu es au courant.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il n'y a pas un lien assez naturel entre ce travail?
Sans doute, hein, mais effectivement.
Toute cette prévision qui est faite par plusieurs modèles très pointus à des échelles assez fines.
Il y a effectivement plusieurs modèles qui distribuent des prévisions, donc des modèles régionaux, a priori bien adaptés. Par contre, je pense qu'aucun n'a regardé s'il reproduisait correctement les concentrations dans cette région. Donc j'encourage tous les participants de cet exercice à utiliser les données qui sont disponibles sur la base de données AMA pour évaluer leur performance pour reproduire les concentrations.
Ils le font par rapport à Aéronet, mais pas encore.
Mais oui, on a bien vu que l'épaisseur optique, c'est pas la même chose que la concentration, et là aussi, il faut faire un peu attention.
Vous avez dit que le niveau d'éducation, d'un facteur social, ne permet pas d'avoir un niveau d'éducation.
Alors, je dois clairement dire que cette planche résume des données publiées dans la littérature. Je pense que... Donc, Oui, tout à fait. Je pense que c'est plutôt dans les pratiques que le taux, dans les pratiques comportementales des personnes, que le niveau d'éducation peut jouer. Genre, si effectivement on connaît les facteurs de risque, qu'on est informé sur des pratiques qui permettent de s'en prémunir, forcément on est moins touché par la maladie. Je pense que c'est la seule chose que ça. C'est l'interprétation un peu crue que j'en donne, mais je pense que c'est plutôt ce type d'effet que ça traduit en fait. Je pense que c'est. Même dans nos pays, on doit avoir ce type d'écart entre les gens qui ont un certain niveau d'éducation et.
Ce sera creusé quand même. Donc, pour aller dans la même direction, qui sont les informateurs pour la déclaration des cas de méningite? Parce que tu disais que ce n'était pas très sûr.
Ce sont les centres de soins, en fait, qui sont répartis dans les différents pays, qui font donc des relevés et qui transmettent ces informations à l'échelle nationale. Enfin, je pense que c'est comme tous les relevés. Le problème des données au niveau épidémiologique, c'est que, à part au Niger où il y a une procédure qui permet de tester le fait que ce soit effectivement des cas de méningite, il y a beaucoup d'autres pathologies qui donnent les mêmes symptômes et qui peuvent être classifiées comme des cas de méningite.
Donc les données du Niger sont plus fiables à ce niveau-là.
Nous n'avons pas. Donc les données dont je parle sur les cas avérés, ce sont des données qui sont centralisées et collectées par le CERMES. Donc dans le cadre de ce projet, on n'a pas pu accéder à ces données. Donc de ce point de vue, alors l'avantage c'est qu'on a des données qui sont homogènes sur tous les pays. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de regarder si on fait une analyse avec les données OMS et si on le fait avec des données du CERMES, est-ce qu'on aboutit à des résultats qui sont comparables.
Et justement, parce que en tant que biologiste, l'hypothèse de l'irritation, on m'a dit qu'on n'était pas complètement sur les tout. Mais on me disait, entre autres, c'est parce que la quantité d'aérosol à hauteur d'homme ou d'enfant, c'est pas forcément la même que celle que vous appelez hauteur aérosol surface, je ne sais pas comment vous appelez ça.
Alors,
le point de vue de biologiste qui regarde ces affaires. Moi-même, je ne travaille pas, je n'ai jamais travaillé là-dessus, mais.
Oui, je comprends la question. Alors, ici, donc, quand on parle de concentration de surface, elles sont mesurées à 6 mètres.
Voilà, c'est ça.
Effectivement, parce qu'on a installé ces stations pour enregistrer un signal de fond. Par contre, quand on fait l'analyse de ces données sur le transect, on voit qu'en saison sèche, c'est essentiellement du transport d'aérosols sahariens. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un gradient assez notable entre la hauteur des enfants et celle des adultes, si effectivement c'était de la production locale, de l'émission locale de poussière. Là, en l'occurrence, puisque c'est essentiellement du transport, je ne suis pas persuadée que ça ait un effet.
La question n'est pas là, c'est est-ce que c'est vraiment le mécanisme biologique de la méningite du type celle qu'il y a dans les zones sahéliennes est vraiment lié à l'irritation des muqueuses. Et on dit parce que le fait que les aérosols sont regardés de très haut, on pourrait avoir des corrélations qui sont liées à d'autres choses. Et donc c'est pour ça que les fumées de foyer sont très intéressantes pour donner des...
Oui, mais enfin comme je le dis, les hauteurs auxquelles on les mesure, c'est quand même pas... aussi haut que ça, 6 mètres, et c'est des concentrations.
Oui, mais nous,
qui sont...
on mesure 1,50
m. Oui, d'accord, on mesure 1,50 m, mais ouais. Elles disparaissent pas quand on s'approche du sol. Et c'est des concentrations, mais tout à fait. Comme je vous dis, la norme de qualité de l'air en Europe, c'est 40 microgrammes. Ici, on arrive à des concentrations de plusieurs centaines de microgrammes. Donc, même quand c'est à 6 mètres, au niveau du sol, c'est toujours là.
Ce serait bien s'il y avait des biologistes aussi dans ce. Dans ce genre de recherche.
Alors, l'argument de la taille différente entre les enfants et les adultes est particulièrement utilisé quand il s'agit d'émissions de véhicules dans les villes. Là, pour les poussières, je suis d'accord avec Béatrice, que les gradients de concentration entre, disons, 75 cm pour 1 mètre, et 1,60 m sont pas très importants.
C'est pas de ça qu'il parle déjà. C'est le fait entre 1 mètre, entre 1 mètre et 2 mètres et 6 mètres. Le fait qu'on regarde les aérosols de surface sont mesurés très très haut.
Mais là aussi, si on a des aérosols à 6 mètres,
ça veut dire qu'on en a encore plus en bas.
À 1 ou 2 mètres.
En tout cas, en termes d'ordre de grandeur, je pense
donc,
que c'est.
La question est plus sur l'irritation des muqueuses, et ça, c'est plutôt une question vers les médecins, surtout.
Les biologistes, oui, de manière générale, oui. Donc, c'est quelque chose qui serait intéressant quand même à travailler.
Ah non, ça, je ne doute pas que ça serait intéressant de voir quelles sont réellement l'action de ces aérosols. Hein. Voilà. Tout à fait.
Je me suis fait le véhicule de. Non, pas l'avocat, le véhicule de certaines interrogations sur la relation directe entre aérosol et énergie.
Bonjour, c'est le même genre de question. C'est de voir si tu as regardé, si vous avez regardé, il y a. Corrélation qui peut y avoir entre le vent par montant, la sécheresse relative de l'air et la charge de poussière.
Non, effectivement, c'est pour ça que je disais qu'il y avait encore du travail à faire, parce qu'effectivement, c'est pas. D'une part, l'intensité du vent n'a pas été inclue dans l'analyse par ondelette, et cette analyse, quand même, rend surtout compte du signal saisonnier qui est très fort sur ces variables. Donc, faire cette analyse en ciblant uniquement sur la saison sèche, effectivement, l'objectif, c'est de voir est-ce qu'il y a effectivement une corrélation entre les poussières, le vent et puis la. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'on ne pourra voir ça que, alors, par exemple, avec l'analyse multivariée ou en utilisant les types de temps, je pense qu'on pourra le voir que si on travaille sur la saison sèche, en excluant la variabilité saisonnière. Mais donc, je suis assez d'accord. Enfin, c'est aussi ce que montre un petit peu l'analyse par type de temps, c'est qu'on a une association de conditions météo avec certaines concentrations de poussière. Après, est-ce qu'on arrivera à les dissocier, à les distinguer, c'est la question.
D'autres interventions, remarques, questions? Alors, on est jeunes. Rendez-vous à 14h. Donc, on est jeunes, là, vous avez pris le café. Vous pouvez laisser vos affaires parce qu'on va fermer en haut, donc personne ne pourra rentrer si ce n'est pas cette porte.
Je je suis d'accord. En fait, si on avait précisé ça, c'est parce que surtout, on a eu des contacts avec des. Enfin, dès que le moment où ça a démarré,
c'est pas la concertation.
C'est vrai que c'est là. Le fait qu'il y ait